Bien, y a-t-il des questions à nos intervenants? Oui, Gérard.
Plutôt qu'une question, je voudrais dire quelques mots en écho à l'excellent exposé d'Isabelle Limousin, qui d'ailleurs y invitait d'une certaine manière, puisque je suis probablement le seul présent qui ait visité plusieurs fois cette exposition remarquable. Alors, j'ai dû aller voir cette exposition au minimum 2 ou 3 fois, peut-être 4 fois, et ce que j'avais constaté, ce que j'ai d'ailleurs dit à Isabelle Limousin quand elle est venue me voir, c'est qu'il y avait énormément de monde, et en particulier, il y avait énormément de jeunes et d'enfants. Les enfants, c'était assez compréhensible, il y avait des robots, il y avait des gadgets, il y avait des jouets, etc. Mais ça a été une exposition vraiment très fréquentée. Ce que je voudrais ajouter, c'est que je ne crois pas que ça ait eu beaucoup d'influence sur la décision de Robert Laffont de me confier ailleurs et demain, à la fin de l'année 68, ou plutôt au début de l'année 69. En revanche, je suis profondément convaincu que les très vagues événements qui ont eu lieu en mai 68 ont été déclenchés par cette exposition. Ce que je voudrais ajouter, parce que ça fait un peu le lien entre les deux exposés qui sont suivis, celui d'Isabelle et celui du représentant de la maison d'ailleurs, c'est que dans ces années-là, je ne pourrais pas dire... Ah oui, j'ai très bien connu Pierre Versin. J'ai rencontré Pierre Versin pour la première fois quand j'avais 17 ans, à l'Ébrie de la Balance. Je suis allé très souvent lui rendre visite d'abord à Lausanne, puis dans les différentes maisons où il a habité, en particulier à Poyer-Devant, au fin fond de la Suisse. Je ne crois pas avoir connu son habitat d'Yverdon, par contre. J'ai assez bien connu Harold Zeman, que j'ai probablement rencontré d'ailleurs en Suisse, à Genève, pour la première fois, enfin avant qu'on se retrouve pour l'exposition. J'ai peu connu, ou très peu, François Matte, je le regrette, parce qu'à l'époque, je faisais d'ailleurs partie de l'association, du musée des arts décoratifs, et je peux dire que j'ai visité toutes ces expositions et qu'après j'ai un peu levé le pied. Alors, entre les deux, il y a ceci. Pierre Versin, en grande partie pour des raisons économiques, souhaitait quitter la Suisse. Je ne peux pas dire exactement en quelle année, c'est probablement 69, 70, 71, enfin, c'est par là. Je ne sais pas. Il voulait quitter Yverdon parce qu'il touchait une pension comme ancien déporté, mais comme la France suisse ne cessait de se réévaluer par rapport au français, là, il n'y a plus à s'en sortir. Donc, il voulait quitter la Suisse et il m'a demandé de voir, il voulait rapatrier en France, puisqu'il était français, ses collections et en particulier sa bibliothèque considérable, sa collection de livres. Et il m'a demandé de voir si on ne pouvait pas trouver une institution qui accueillerait cette collection. Je suis allé au ministère, j'ai essayé de contacter pas mal quelques institutions. J'avais beaucoup de poids à l'époque parce que j'étais un des conseillers du directeur de la Caisse des dépôts et consignations, ce qui n'était pas rien. Je suis allé au ministère de la Culture, accompagné d'ailleurs de mon ami et collègue de Coufflet, qui est le père du chorégraphe. Enfin, il s'occupait à l'époque de prospectifs. Il avait créé, qui dirigeait le laboratoire de prospectives appliquées. Donc, nous sommes allés ensemble au ministère de la Culture et on nous a accueillis tout de suite très aimablement, mais avec cette question remarquable: est-ce que votre ami Pierre Versin a les moyens de faire entretenir sa collection? Et à l'issue d'une heure ou deux, il ne s'est rien passé du tout, on ne nous a rien proposé du tout, sinon on m'a dit on pourrait peut-être la loger à Arquessenon, je connaissais bien un endroit qui était une ruine ou une demi-ruine à l'époque, pour la laisser pourrir, il n'y avait rien de mieux. Du coup, elle est restée assez inutilisée, si je puis me permettre de le dire, à Yverdon pendant des années, dans le local minuscule où Versin avait habité, et avant d'être installée dans la prison municipale d'Yverdon, dont apparemment il est très difficile de s'échapper. Et finalement, tout est très bien comme ça. Il s'est trouvé, pour indiquer l'incurie de l'administration française à cette époque, évidemment, et uniquement à cette époque, qu'à peu près en même temps, du Buffet à se poser, j'ai visité sa collection dans un hôtel particulier, je ne sais plus où, du Marais, enfin, qui était assez délicatif. Il se posait la même question, c'est-à-dire trouver une institution qui accueille son exposition, sa collection d'art brut. Et ma foi, elle s'est retrouvée à Lausanne. Et chaque fois que je vais à Lausanne, ils ont agrandi le bâtiment, ils ont acheté une maison à côté. Oui, bon, on aurait pu avoir tout ça, on ne l'a pas. Voilà, sans ça, je veux dire que j'étais très sensible à l'exposé d'Isabelle Limousin qui m'a rappelé beaucoup d'excellents souvenirs.
Pour Isabelle Limousin, mais les autres pourront rebondir, certainement voudront rebondir. Vous avez dit ou vous avez rapporté les propos de quelqu'un, il n'y a pas d'art SF comme il y a un art cinétique, il n'y a pas d'art science-fictionnel, je suis assez d'accord, il n'y a pas de... Admettons qu'il y a un roman SF, il n'y a pas de photo SF, il n'y a pas d'art pictural, il n'y a pas de langage pictural SF, il n'y a pas de musique SF, ce qui explique peut-être la difficulté de tenir une exposition sur l'art SF ou sur la science-fiction. Je lance là, est-ce que ça... et j'attends une réaction.
Oui, enfin, je partage votre point de vue. Donc, c'est dans le préambule du catalogue qu'il est précisé par Harald Zeman, je pense que le texte est anonyme, mais Harald Zeman est le commissaire, donc il assume l'exposition. Harald Zeman écrit donc qu'il n'y a pas d'art science fictif, et je partage a posteriori ce point de vue. Et effectivement, il n'y a pas eu de revendication clairement exprimée, en tout cas de ma connaissance, d'un groupe d'artistes qui se revendiqueraient voilà, de l'art scientifique, pourquoi pas, enfin, d'ailleurs ça aurait pu arriver, ça aurait pu se produire, ça peut se produire, ça peut exister, mais en tout cas les artistes qui ont été rassemblés sous la bannière de l'exposition des Arts Déco voilà, n'appartenaient pas à un groupe clairement établi, constitué, voilà, effectivement.
Ouais, j'ai l'impression que c'est pas une très bonne question. Si on prend pas la question en soi, la question de l'art SF, la dénomination en fait. Si on prend tout le courant actuel américain et européen du New Media Arts par exemple, qui travaille à partir de la culture du jeu vidéo et des nouvelles technologies à des fins artistiques, on a un art SF, mais heureusement on l'appelle pas comme ça. Donc il y a de la musique SF, pensons aux années 70, au premier disque de voilà que l'on m'échappe maintenant. David Bowie, voilà, Ziggy Stardust, voilà. Ziggy Stardust, voilà. Ce qui fait que, voilà, ce que je veux dire, c'est que quand on veut l'art SF, on cherche un label et donc peut-être un groupe, une école d'artistes qui se dirait on fait de l'art SF ou on fait comme on faisait du cubisme, du surréalisme, etc. Je crois que l'idée de Versin, c'est une idée que je trouve assez intéressante à l'époque. C'était qu'il définissait, enfin, il disait il n'y a pas de genre SF, ce qui est quand même relativement discutable, mais il disait il n'y a pas de genre SF, mais il y a un état d'esprit, qu'il appelle l'état d'esprit de la conjecture. Et s'il y a un état d'esprit, ça veut dire que cet état d'esprit peut prendre plusieurs formes. Et donc c'est logique, par définition quasiment, qu'il n'y a pas de art SF, puisque l'état d'esprit peut prendre plusieurs formes, et donc on peut trouver de la SF, au sens de l'état d'esprit SF, dans d'autres formes d'art. Et moi je pense au media, New Media Art, parce qu'évidemment c'est quelque chose que je connais assez bien cette année avec l'exposition sur les jeux vidéo, mais on peut penser évidemment à tout l'art de l'illustration numérique, le digital art, le computer art, etc. Où j'ai l'impression qu'on a un label éditorial, on a eu depuis les années 26 un label éditorial, et on essaye absolument de faire que ce label éditorial contamine d'autres types de pratiques. Et c'est pour ça que j'ai toujours aimé la définition de Versin, parce que, et pas parce que c'est le premier à avoir fondé la maison d'ailleurs, c'est pas une sorte d'affiliation directe, mais parce que je crois que de penser à un état d'esprit, c'est-à-dire à un processus de pensée, à un processus imaginatif, est plus intéressant et plus fertile surtout que de trouver une étiquette. Tout comme en littérature, finalement, quel est le roman de SF pur ? Heureusement qu'il n'y en a pas, il ne serait sûrement pas très intéressant. Mais par contre, s'il peut y avoir des hybridations de toutes formes, c'est-à-dire que si l'état d'esprit peut contaminer des formes, alors on est dans quelque chose qui me semble plus dynamique, plus organique et peut-être un peu plus intéressant.
Alors, une question. Je voulais aussi continuer Pour suivre ma réponse, effectivement, il n'y a pas d'art SF qui se revendique en tant que tel, d'où la difficulté pour Zeman rassembler la partie art plastique de son exposition. Et malheureusement, je voudrais passer un petit extrait d'une bande que j'ai trouvée sur le site de l'INA, où Zeman explique au journaliste qui est venu m'interroger au sujet de l'exposition, écoutez, j'ai vraiment eu un problème pour la partie artistique parce qu'il n'y a pas d'art SF en tant que tel. Et j'aurais voulu passer commande à des artistes d'œuvres spécialement pour l'exposition. Donc voilà, en appelant ceux qui le connaissaient à ce moment-là, c'est-à-dire passer commande, clairement, j'organise une exposition, est-ce que tu pourrais me faire une œuvre qui soit liée au sujet ? Voilà, passe commande. Et malheureusement, il n'a pas obtenu les finances qui auraient été nécessaires à un projet comme celui-ci, donc il a plutôt repéré les œuvres, comme tu disais, voilà, qui ont un état d'esprit qui s'apparente à celui de la science-fiction, mais voilà, on n'est pas au-delà de ça. Et donc il a fait comme il pouvait, de manière à créer une exposition qui soit généraliste, et c'était son ambition, qui rassemble tout type d'expression artistique. Et il y est parvenu avec les fragilités et les faiblesses d'un projet comme celui-ci. Puisqu'effectivement, il voulait rassembler sa bannière des objets qu'il était par le bon vouloir de sa sélection, de son choix, sa volonté de les rassembler à ce moment-là.
Alors, une autre question ?
Oui, je suis un petit peu ennuyé depuis le début. En fait, ça rebondit sur la définition flottante que vous donnez de l'art. Parce que pour l'instant, soit je la crois flottante, soit je la crois surdéterminée. J'hésite depuis le début. Mais puisqu'il y a beaucoup de questions de la Suisse, je dirais avec Rousseau qu'il existe des vérités simples, qui à force d'être appelées, on les oublie. Mais la littérature, c'est un art. Oui, bon, évidemment. Okay. Ouais. En Suisse aussi, on fait toujours très attention avec ce genre de choses. Je dirais la chose suivante. La littérature est un art à partir d'un certain moment. C'est-à-dire, je ne suis pas convaincu que tous les auteurs, tous les romanciers soient considérés comme des artistes. Je pense que certains romanciers, avec une pratique particulière du langage, peuvent être considérés comme des romanciers, ce qu'on appelle peut-être à tort, mais ce qu'on a appelé longtemps la haute littérature, la littérature noble. Si on suppose, je pense qu'il y a autant de définitions de l'art que de définitions de la science-fiction, c'est-à-dire pour chacun la sienne, si on suppose qu'il y a en tout cas dans l'art quelque chose d'une pratique différente de quelque chose qui se pratique quotidiennement, ou l'utilisation différente de quelque chose qui se pratique quotidiennement, on pourrait atteindre une forme de singularité qui ferait que tout le monde n'est pas a priori artiste, ou plutôt que tout le monde ne le devient pas.
Non, parce que ce type de distinction vous établissez... Il existe depuis le début dans l'architecture, qui était l'art premier au départ, et il y a tout autant de détermination artistique ou non artistique dans l'activité d'architecte. Donc moi j'en reviens tout simplement à une définition commune quasiment de bon sens que tout le monde peut ici recevoir, c'est que en tant que pratique littéraire, la science-fiction est un art. Faire très simple parfois.
Il y a, je pense, assez peu de chances qu'on puisse s'entendre là-dessus. Mais dans le sens où, si toute la science-fiction est un art, alors finalement, quel est l'intérêt de s'y pencher ? Ce qui est intéressant, c'est peut-être que justement des distinctions se fassent sur plusieurs plans, peut-être.
Mais on peut faire rebondir aussi dans ce cas, toute la peinture n'est pas un art, toute l'architecture n'est pas un art, il y a une architecture politique qui ne voulait pas artistique. Ce que je veux dire, c'est d'en venir tout simplement, et ça, je pense que même vous devez... au moins le tolérer, c'est que l'exclusion dans la référence au catalogue qui était faite d'entrée de la littérature, puisque la science-fiction n'est pas un art, on oublie au moins une des modalités. Au moins on peut reconnaître ça, je crois. Je pense qu'il y a des... Est-ce que vous voulez bien admettre qu'il y a des chefs-d'œuvre artistiques dans la littérature de science-fiction ?
Mais j'ai jamais dit qu'il n'y en avait pas. Donc, on ne peut pas dire que tout est art, dans le sens où si vous dites que tout est art, ça veut dire que...
J'ai jamais dit ça. Je dis simplement que si la science-fiction n'est pas un art, vous confondez la cause et l'effet. Je dis simplement que si la science-fiction n'est pas un art, comme il est dit dans le catalogue, c'est faire peu cas d'une frange de la littérature qui est clairement artistique, puisqu'ayant produit des chefs-d'œuvre. Je pense que c'est compréhensible.
Okay, ouais, effectivement, je pense. Déjà, on parlait de RSF au sens de l'art plastique, et pas de l'art au sens très large du techné et savoir-faire grec. Je crois qu'on parlait vraiment de l'art. Enfin, peut-être mieux passé que moi pour dire ce que tu voulais dire. Quand on parle d'RSF, c'est qu'aujourd'hui, le label SF n'est pas un label qui est reconnu dans le monde de l'art. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de chef-d'œuvre littéraire, cinématographique, graphique ou autre. Ça veut dire qu'il n'existe pas de catégorie artistique dans l'histoire de l'art canonique qui s'appelle RSF. Comme il existe quelque chose qui s'appelle le surréalisme, par exemple, qui est reconnu comme une pratique artistique. C'est dans ce sens-là, ce n'est pas dans le sens plus infiniment large du terme.
Je suis vraiment navrée de vous interrompre, mais si nous voulons prendre une petite... On a encore 5 minutes. Ah, mais alors, continuons. Il y a peut-être d'autres questions. Alors, bien entendu, vous pourrez poursuivre cette discussion qui mériterait beaucoup de temps.
Merci. Alors, en fait, j'avais une question plutôt pour Cédric Chauvin et Pierre Bornage. J'ai trouvé très intéressante la mise en parallèle des deux romans, enfin des deux cycles. Et je m'interroge sur cette conception de régression, parce que vous avez dit, Cédric Chauvin, que finalement on ne trouvait pas la même logique de régression, du moins biologique, dans les griots célestes, il me semble. Mais finalement, j'ai l'impression que ce que vous avez un peu mis en valeur, c'est justement cette obsession littéraire de la régression dans l'œuvre de Pierre Bordage, c'est-à-dire finalement une construction narrative qui se fait toujours entre une lutte, entre une peur de la régression, quelque chose qui est en train de se perdre, qui est en train de disparaître, et au contraire, finalement, la lutte qui se fait a une espèce de logique paradoxale qui est que les instruments mêmes de la lutte sont des gens qui contribuent à cette régression parce qu'il faut arriver en quelque sorte à un épuisement, la régression, et pour la dépasser, en fait. Enfin, j'essaie vaguement de formuler une intuition, c'est-à-dire, finalement, est-ce qu'il n'y a pas une dialectique? Et finalement, comment se résout-elle entre cette peur de la régression et un dépassement, un renouveau? Voilà. Bon.
Je suis très mal à l'aise de répondre. Je ne sais pas trop ce qui peut se passer dans ce genre de situation.
Je dirais que le chercheur a la priorité et après il est sanctionné.
Ah, d'accord. C'est ça. Non, je ne suis pas exactement sûr que le propos est exactement là où vous le situez. La question de la régression, il m'a semblé qu'elle était centrale dans l'Unpur. Les personnages n'y contribuent pas. C'est-à-dire qu'à la fois en luttant contre l'anguille, en luttant contre l'animalité, les personnages des différents romans que j'ai lus luttent contre cette position radicale en réalité qui consiste à faire disparaître l'humanité à tous les niveaux et à tous ces niveaux. Voilà. Mais moi, ce que j'ai essayé de voir, c'était comment justement les héros étaient dans une espèce de position transitoire qui faisait que, en réalité, il fallait bien prendre acte d'une post-humanité, mais qu'à la fois les valeurs et les définitions n'étaient pas peut-être encore aussi net pour définir l'humain dans ces nouveaux états, et qu'il y avait donc la persistance peut-être de modèles qu'on pourrait rassembler sous ce terme d'humanisme. Mais je ne suis pas sûr d'avoir été dans cette direction, tout à fait.
Faut que je dise quelque chose, c'est ça?
Oui, Pierre.
Je me suis fait avoir sur ce coup-là. J'aurais pas dû venir. Mais il n'y aura aucune sanction de ma part sur le travail de Cédric que je trouvais remarquable. Et c'est peut-être toujours intéressant d'entendre quelqu'un analyser ses propres livres parce que ça porte un éclairage nouveau, donc ça enrichit le livre. Je pense que le livre, une fois sorti de moi, il appartient à tous ceux qui le lisent, et que donc d'avoir cette version-là, d'avoir entendu ces mots-là, enfin cette analyse-là sur le livre, sur les livres, enrichit le livre. Et c'est son but finalement, hein. L'auteur, c'est celui qui ramène quelque chose du fond du fleuve humain et qui le sort pour ses semblables, et puis voilà, débrouillez-vous avec, merci, j'ai autre chose à faire maintenant. Et surtout pas analyser mes propres bouquins, parce que là, c'est vraiment trop. Et c'est aussi étonnant qu'il ait choisi deux livres qui ont été l'opposé pour moi sur le plan d'écriture, parce qu'autant Les Fables de l'Impur a été une... Je tiens à la prononciation impure. UHMP, c'est un, et en même temps ça crée une sorte de jeu de mots parce qu'on a l'impression que on parle d'impur alors qu'on parle de l'humanité pure, mais bon. Et donc autant ça a été une grande, très grande jubilation pour moi d'écrire La femme de l'impur, où tout le travail lexical, tout le travail sur le langage m'a vraiment plu. C'était une effervescence et une vraie jubilation. Autant le travail sur les griots célestes a été extrêmement douloureux, comme vous le signalez, enfin, je l'avais signalé dans une interview. Pourquoi, alors je me suis interrogé pourquoi après ça avait été aussi douloureux les griots célestes, et bien parce que c'est un roman piégé par excellence, parce que c'est un roman de la séparation. C'est-à-dire que les griots sont des gens hors du temps, et nous, humains, nous sommes condamnés par le temps. Il y a cette espèce d'aller-retour entre le temps et leur temps qui fait que c'est une mort permanente, quoi. En fait, les griots meurent en permanence parce qu'à chaque fois, ils quittent l'humanité qu'ils viennent de visiter. Et ils doivent. Donc, ils n'ont. De la même façon que les personnages des femmes vampires ont encore le droit de s'attacher, comme Veillir au début s'attache à la Troya Horn, tombe amoureux de la Troya Horn, ils n'ont pas le droit de s'attacher individuellement. De la même façon, les griots célestes n'ont pas le droit de s'attacher parce que de toute façon, tout attachement affectif serait immédiatement condamné, enfin les condamnerait immédiatement à une grande souffrance. Donc c'est pour ça que ce roman était très douloureux, parce qu'il était marqué par la mort, et en même temps mon frère est mort pendant ce temps-là, pendant que je l'écrivais, et tout ça, c'est une sorte de réflexion sur l'effacement programmé par le temps. Donc ça, je pense, c'était la douleur. Et puis je ne sais plus quelle était la question sur... pour Simon. Ah oui, alors ce qui peut rassembler les deux romans, je pense, c'est l'idée de la nécessité de maintenir la trame humaine, la nécessité de considérer que chaque être humain sur Terre est important dans la trame humaine, qui est très bien démontrée par exemple dans le film de Capra, La vie est belle, qui est vraiment la démonstration de cela, c'est-à-dire si un humain n'existait pas, ça modifie aussi considérablement la trame, et donc la nécessité de maintenir cette trame, et comment maintenir cette trame le mieux possible, c'est en allant vers l'individu, c'est-à-dire en évitant le morcellement que sont les idéologies, les dogmes, l'interdiction du grand mel pour les personnages de l'impur, c'est-à-dire c'est le morcellement permanent qui fait qu'on s'oublie les uns les autres, qu'on s'enferme dans une... Paradoxalement, c'est si on renie son individualisme qu'on se condamne à être égoïste, en gros. Et que donc on précipite la fin de l'espèce humaine. Voilà, c'était, je pense, qui rassemblait les deux bouquins. Je ne sais pas si ça répond à la question de Simon. voilà, c'est peut-être qui peut lier les deux livres, et puis qui une sorte de quête obsessionnelle qui traverse la plupart de mes livres. Hein, c'est trouver sa propre voie individuelle pour mieux servir finalement l'espèce, qui est peut-être aussi la définition du héros tel que dans Joseph Campbell, le héros aux mille visages, c'est-à-dire le héros, c'est celui qui va vivre son aventure individuelle, qui va évoluer, qui va se transfigurer pour ramener quelque chose assez semblable, pour souvent ramener une harmonie perdue. Par exemple, dans Les Femmes de l'Impur, on a une harmonie perdue qui était celle de l'humanité, si tant est que l'humanité soit harmonieuse, hein, d'accord. Mais le héros, c'est celui qui va chercher une nouvelle voie par une succession d'épreuves, et qui va pouvoir ramener après à ses semblables cette réharmonisation.
Merci Pierre. Dernière question de Roger, et après nous passerons à la pause.
Oui, je voudrais revenir sur l'art, désolé, mais j'ai vu l'exposition dont il était question, et il y avait... Pardon. Et il y avait des tas d'objets, et certains de ces objets étaient beaux. Certains de ces objets faisaient penser à d'autres objets vus dans des galeries où ça eût été de l'art si ça avait été exposé. Donc, ce que je pense, c'est qu'il n'y a peut-être pas un art SF. D'ailleurs, ça n'a aucun intérêt de se classifier. Mais il y a un art qui peut être. Il y a des objets d'art qui peuvent être ou relever de la science-fiction. Je ne vois pas pourquoi on priverait certains objets beaux, n'est-ce pas ? Sous prétexte qu'ils sont à la maison d'ailleurs, par exemple, en disant, puisque c'est de la science-fiction, ce n'est pas de l'art.
Non, mais alors je pense effectivement qu'il y a eu un malentendu, puisque je ne peux pas diriger un musée de science-fiction et dire que ce que j'expose, ce n'est pas de l'art. Enfin, ouais, je pourrais, mais ça serait une posture cynique, un peu à la Welbeck, comme ça. Parce que je crois qu'on a vraiment rebondi sur la question qu'il n'existe pas de catégorie art SF, et comme tu le dis, je suis d'accord avec ça ne servirait pas à grand chose, en fait. Ce qui ne veut pas dire que les productions qu'on peut appeler de manière, disons, consensuelle, relevées de la science-fiction, ne soient pas belles. Voilà. Il n'existe pas de catégorie, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'existe pas de beauté. Si on prend l'œuvre de Barbier, là, on connaît beaucoup l'hospice, hein, les super-héros à l'hospice, je ne sais pas si vous connaissez cette œuvre de Gilles Barbier qui est assez incroyable, bah, personne ne va dire que c'est de l'art SF, bah, personne. Il s'avère que cette œuvre s'inspire d'une tradition qui est la tradition du comics avec la question du temps, puisqu'on sait bien que c'est quelque chose de profondément important dans le comics, c'est que les super-héros ne vieillissent pas, du moins au début. Il faut quand même savoir comment faire pour justifier ça, et que finalement, en utilisant une des propriétés de cette tradition, qui est le vieillissement du super-héros, ou plutôt l'absence de vieillissement, et en proposant des super-héros dans un hospice pour vieillards, on produit quelque chose qu'on peut trouver, en tout cas moi, et je pense que je ne suis pas le seul, à trouver ça beau. Mais c'était plutôt l'idée de l'absence de la catégorie. C'était, je crois que ce n'était pas sur le fait que tout ce qui provient de l'imaginaire SF ne peut par définition pas être beau. Voilà. Enfin, je pense qu'on est à peu près tous convaincus par ça. Mais comme il n'existe pas de catégorie esthétique, alors il s'avère que ces choses-là ne sont jamais identifiées comme ressortissant à une esthétique plus globale. Et je pense qu'une des raisons, mais je pense que Gérard Klein serait plus apte que moi de répondre, l'expo de 67-68 avait quand même cet avantage d'identifier un phénomène, un état d'esprit, j'aime bien cette idée-là, pour montrer que des choses belles pouvaient y appartenir. Je ne sais pas la postérité de ça, mais aujourd'hui je peux vous dire que ce n'est pas comme s'il y avait 1 million de musées science-fiction en Europe, il n'y en a qu'un. Par contre, il y a plusieurs arts bruts qui commencent gentiment à arriver et qui fait que malgré tout, la question qui m'est posée le plus souvent, c'est en quoi les choses qui sont présentées à la maison d'ailleurs, et je pense que c'était le cas auparavant aussi, sont de l'art. Et donc l'absence de catégorie esthétique, qu'on peut trouver effectivement pas très intéressante, a un effet pervers, c'est qu'elle n'est pas enseignée, elle n'est pas apprise, elle n'est pas montrée, et donc les gens se posent toujours la question de « est-ce que c'est de l'art ?» Et nous, à la maison d'ailleurs, on passe notre temps à devoir dire pourquoi on suppose que les choses qu'on présente, c'est de l'art. Giger étant la seule exception suisse, mais qui a été récupérée beaucoup par l'Alien, en fait, par l'industrie cinématographique.
Ultime question, Jean-Luc, parce qu'après on va prendre du retard.
D'accord. Non mais j'irai très vite, mais là ce que vient de dire Marc Attala éclaire un peu, parce que j'avoue que j'étais un peu surpris. Alors c'est vrai qu'en Europe et surtout en France en particulier, on aime bien les catégorisations, il faut que chaque chose ait une étiquette, etc. Je dirais que ce qui fait peut-être un peu la force de la science-fiction, Monsieur Chauvin parlait de porosité tout à l'heure, moi je parlerais de la porosité de la culture, la science-fiction elle s'infiltre partout, et je pense que ça n'a pas besoin d'être catégorisé. Au premier coup d'œil, on reconnaît honnêtement, immédiatement, un artiste. Je pense que quand on regarde une toile de Manchu ou de Bonestel, on sait immédiatement qu'il s'agit de science-fiction et pas d'autre chose. Donc je crois que cette espèce de catégorisation ne veut rien dire. En musique, c'est la même chose. Quand on écoutait Electric Light Orchestra, on écoutait de la musique de science-fiction. On le savait, ils n'avaient pas besoin de dire « nous faisons de la science-fiction ». Donc je crois que là, le débat est un peu faussé. La science-fiction, ça se ressent, ça n'a pas besoin d'être dit.
Merci Jean-Luc. Bien, nous faisons la pause. Ah oui, pardon. Isabelle,
j'aurais voulu répondre. Dis-moi, vous mentionniez la beauté des objets qui étaient présentés dans l'exposition. J'étais d'accord avec ta réponse, Marc. Effectivement, enfin, il n'y a pas d'exclusion. Enfin, la dimension esthétique des objets présentés n'était absolument pas exclue d'exposition. Et d'ailleurs, au musée des arts décoratifs, que voit-on ? De beaux objets. L'intérêt, je trouve, essentiel de l'exposition présentée par Zeman aux arts décoratifs, c'était justement qu'elle n'excluait rien et que tout type d'objet était présenté. Voilà, et qu'il y avait une réflexion qui était faite hors catégorisation. Mais ça n'empêchait pas de dire dans son préambule qu'à son sens, un art science-fiction n'existait pas. Mais la manière dont il a organisé son exposition, je trouve, enfin, il me semble, enfin, on peut en discuter avec ceux qui l'ont vu et visité, c'était justement qu'elle était extrêmement vaste, extrêmement ouverte. C'était un point de vue ouvert, large, sur le sujet qu'était la science-fiction, qui au contraire ne catégorisait pas et n'enfermait pas dans des petites cases les objets qui étaient présentés, mais les présentait au public de manière extrêmement riche.
C'était le sens de mon texte, d'ailleurs, c'est culture vaste.
Isabelle, c'est bon ? Pardon, je vais... Voilà, donc nous allons faire la pause et après nous revenons pour...